Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Que Facebook cesse de pister les internautes sans leur consentement et qu'ils détruisent toutes les données personnelles obtenues illégalement, c'est ce que demande la justice belge au groupe américain dans un jugement rendu vendredi dernier au nom du respect de la vie privée. Faute de s'y soumettre, Facebook devra payer une astreinte de 250 000 euros par jour de retard. Alors certes, l'entreprise de Mark Zuckerberg pourra s'en remettre, mais il ne s'agit pas pour autant d'une décision seulement symbolique. Les juges belges viennent d'envoyer un signal fort aux grandes entreprises du web. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les données des internautes. L'Union européenne s'est d'ailleurs dotée d'un nouveau règlement sur le sujet. Il entrera en vigueur le 25 mai prochain. Alors la question n'est pas seulement d'ordre juridique, elle est aussi financière. Les données personnelles sont une richesse. Certains parlent même d'or noir du 21e siècle. Mais une richesse captée par les plateformes au détriment de ceux qui les produisent. Autrement dit, nous tous. Alors pour remettre de l'équité dans un système déséquilibré, le think tank Génération Libre propose de monétiser nos données. Idée séduisante à première vue, mais faut-il vraiment considérer ces données comme une simple marchandise? Ne sont-elles pas un bien commun? Dès lors, à qui confier notre portefeuille de données personnelles? C'est le sujet du soir en compagnie de trois invités. Isabelle Falque-Pierrotin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère d'État, vous présidez la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Vous êtes par ailleurs présidente de la Conférence Mondiale des Autorités de Protection des Données. Pour discuter avec vous, Isabelle Landreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, médiateur, membre du conseil scientifique du think tank Génération Libre et co-auteur du rapport « Mes datas sont à moi pour une patrimonialité des données personnel. Et puis troisième invité, Lionel Morel.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes juriste et bibliothécaire, auteur du blog Silex. Vous avez d'ailleurs signé dernièrement un article intitulé « Pour une protection sociale des données personnelles ». Vous êtes par ailleurs membre de la Quadrature du Net et du collectif Savoir Commun. Alors avant de débuter la discussion sur le fait de savoir s'il faut ou pas monétiser nos données personnelles, peut-être faut-il d'abord commencer par redire ce que sont ces données. Si on regarde l'article 2 de la loi Informatique et Liberté, que vous connaissez forcément par cœur, Isabelle Falque-Pierrotin, mais je vais quand même en lire un extrait, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, comme on dit souvent quand on est journaliste, concrètement, ça recouvre quel type de données?
Alors concrètement, ça recouvre le nom, le prénom, des choses qui naturellement se rapportent à un individu, mais aussi un numéro d'identification de l'individu, par exemple son numéro de sécurité sociale, son numéro fiscal, et de plus en plus, ses habitudes de vie ou de consommation, son panier d'achat sur Internet, les endroits où il est, ce qu'on appelle les données de géolocalisation, peut-être aussi l'ensemble des appareils techniques qui tournent autour de lui, en particulier son téléphone. Donc si vous voulez, c'est tout un écosystème informationnel qui peut se rattacher directement ou indirectement à une personne.
Alors de plus en plus, il est important, Lionel Morel, c'est-à-dire qu'on produit sans toujours s'en rendre compte, hein, mais de plus en plus de données personnelles. Et d'ailleurs, même le terme de personnel est important, c'est-à-dire des données peut-être de plus en plus intimes, c'est-à-dire qui vont de plus en plus profond dans notre vie privée.
Oui, il y a une sorte de paradoxe là-dessus, parce qu'à la fois, il y a une production de données qui sont, comme vous dites, de plus en plus intimes, parce que on a des moyens de plus en plus importants pour les capter, hein, notamment avec les objets connectés qui peuvent nous suivre en permanence. Un simple téléphone portable capte une somme de données en temps réel sur nous qui est importante. Mais j'ai envie de dire, les données, quelque chose dans la définition des données sur leur angle personnel qui, moi, me gêne toujours, parce qu'en fait, elles sont aussi de plus en plus sociales ou de plus en plus collectives. C'est pas pour rien que ce sont les réseaux sociaux, par exemple, qui sont les premiers à essayer de capter ces données, parce qu'en fait, ces données, elles sont toujours un reflet de notre vie sociale. Quand dans les données que vous avez citées, par exemple, c'est des données qui, par exemple, je sais pas, moi, mon nom, il m'a été donné par mes parents. Je travaille à tel endroit, mon employeur produit des données sur moi. J'habite à tel endroit, c'est l'État qui va produire des données sur nous. Donc, du coup, ces données, elles ont toujours une dimension collective.
Donc, vous préféreriez qu'on parle de données sociales plutôt que de données personnelles?
Moi, je préférerais carrément qu'on parle de données sociales, effectivement, parce que ça mettrait beaucoup plus en avant la dimension collective qui actuellement est pas assez perçue.
Est-ce que le terme de données personnelles vous convient à vous, Isabelle Landreau?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Lionel a souligné la dimension collective et elle n'est pas oubliée de notre rapport. Mais il a évoqué, il ne l'a pas dit, mais il a écrit un article dans l'Obs et qui parle de données citoyennes. Et je trouve que ce terme est bon. Et c'est vrai que la personne, identifiée ou identifiable à travers ses usages numériques et ses objets connectés, va avoir un nombre incommensurable de données et de plus en plus.
Alors ces données citoyennes, qui en profite? Qui en profite au premier chef, Isabelle Landreau? Dans le rapport que vous évoquez, vous parlez notamment d'un pillage en règle de ces données, pillage par les géants de l'Internet.
Alors oui, tout à fait, mais on n'est pas les seuls à dire ça. Hein. Donc Lionel a parlé par exemple de prédation et que c'est une grande violence. C'est vrai qu'en fait ces données, elles sont collectées un peu à notre insu, sans qu'il y ait vraiment un consentement clair et explicite. Bien sûr, il y a des nouveautés dans le RGPD, mais si vous voulez...
Alors le RGPD, c'est le règlement qui entrera en vigueur le 25 mai au niveau européen.
Voilà, exactement. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, le consentement, c'est un système de opt-out, c'est-à-dire on consent par défaut. Et on ne lit pas forcément les conditions générales de vente ou d'utilisation, telles Facebook. Et donc, c'est quelque chose de global. Le citoyen n'a pas le droit de négocier.
Est-ce qu'il y a un consensus déjà sur ce constat-là, Isabelle Queufalque-Pierrotin et Lionel Morel, sur le fait que nous qui produisons ces données, alors appelons-les données personnelles, données citoyennes, données sociales, nous n'en profitons pas. En tout cas, ceux qui en profitent, ce sont ceux qui ont la capacité de les monétiser, à savoir les industries du web.
Moi, je poserais les choses différemment. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que les données personnelles représentent beaucoup d'argent. Il y a une valeur économique qui est forte. Il y a un consensus pour dire la valeur de ces données est effectivement largement agrégée par ces acteurs économiques et il n'y a pas de retour soit vers l'individu, soit vers la collectivité. En tout cas, pas de retour suffisant. Et ça, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, il y a différentes solutions pour traiter ensuite le constat.
Est-ce que vous seriez d'accord là-dessus, justement, Lionel Morel?
Je serais d'accord avec quelques nuances. Moi, en fait, dans la vision qu'on essaie de porter, ce qu'on dit, c'est que ces données, en fait, elles sont le résultat d'un rapport de production forcé dans lequel on nous inclut, et notamment ces plateformes nous incluent dans un rapport de production, parce qu'en fait, quand on est sur ces plateformes type Facebook et autres, elles nous font produire les données, et on les coproduit avec elle. Et ce rapport, il ressort de ce que beaucoup appellent, ce qu'on appelle le digital labor, le travail numérique. Et effectivement, ça produit une valeur, en fait, une valeur économique.
Mais dont nous profitons aussi en retour, c'est-à-dire que ces données qu'on fournit, oui, on s'en sert aussi dans la vie de tous les jours.
En termes de service, et là où je pourrais avoir certains points d'accord avec Génération Libre, c'est sur la dimension asymétrique du rapport avec ces plateformes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles nous placent dans un rapport de puissance complètement déséquilibré, qui permet pas à l'individu d'avoir la maîtrise. Par contre, après, on va avoir plutôt des désaccords sur les moyens qui permettraient de rééquilibrer ce rapport.
Donc, on va dire que le consensus, disons, à minima, il est sur cette question d'une asymétrie, Isabelle
Oui, d'une asymétrie avec quand même une caractéristique, c'est qu'on a un retour en termes d'accès à des services gratuits. Donc, aujourd'hui, l'échange n'est pas zéro et sans entre, d'une part, l'individu et la société. On a en fait une relation qui est déséquilibrée, mais qui se traduit pour l'individu quand même en termes de bénéfices, accès à des services gratuits.
Donc il y a du déséquilibre et l'idée c'est justement d'essayer peut-être de rétablir un peu d'équilibre, si ce n'est un équilibre absolu. Et on va commencer par une des pistes donc, qui est proposée, Isabelle Landreau, par votre think tank Génération Libre, qui consisterait donc à monétiser nos données personnelles. Alors déjà, je voudrais juste d'un point de vue très pratique, en quoi ça consisterait, comment ça fonctionnerait. C'est-à-dire que je dirais à chaque fois que je remplis un formulaire, par exemple quand je remplis la case de mon nom, ça correspond à telle somme, quand je remplis mon prénom à telle autre somme, enfin, comment est-ce que je serais rémunéré en fournissant sur Internet des données personnelles?
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est déjà le cas. Hein. Quand vous regardez, on connaît le prix d'un numéro de compte en banque, on connaît le prix d'une adresse email, on connaît le prix d'un nom et un prénom. Tout ça, c'est déjà sur le marché. Donc, nous, ce qu'on a pensé dans Génération Libre, et je suis d'accord
avec...
C'est
déjà sur le marché, c'est-à-dire c'est ce que des entreprises vendent à d'autres entreprises.
C'est déjà sur le marché aux États-Unis, ailleurs, sur le dark web et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on a proposé dans le rapport, c'est une option possible, mais il y en a bien d'autres. Je suis d'accord sur le consensus qu'il n'y a pas de retour suffisant. Et en effet, il y a un véritable déséquilibre entre la promesse, si vous voulez, des prix des données, qui est quand même une devise forte, et puis une devise faible, qui est la gratuité. Et
oui, mais vous ne me répondez pas à ma question, Isabelle Landreau. C'est-à-dire, comment ça fonctionnerait ? Suis un individu lambda, de quelle manière je pourrais être rémunéré, disons, par rapport à mes données personnelles ?
J'y arrive. Donc, c'est très simple. On a imaginé donc, que la CNIL soit au centre de cette gestion de la donnée, et ça peut être soit une plateforme développée par la CNIL, sous forme, par exemple, des sociétés de gestion collective, comme pour les droits d'auteur, pour la SACEM, la SACD, mais ça peut être aussi sous forme d'une API, hein, d'une plateforme où justement le citoyen, le cybercitoyen, va consentir à une exploitation catégorielle de sa donnée dans une finalité déterminée pour un temps déterminé. Et tout ça est rémunéré par une chaîne de valeur avec des détaillants, des courtiers en données, et il va le recevoir un micro-paiement, un nano-paiement, tel ce qu'on fait déjà lorsqu'on achète des applications à 0,99 euros. Voilà. Et donc ça multiplié par le nombre, si vous voulez, de transactions qui seront enfermées dans la chaîne de blocs par des smart contracts, eh bien, tout ceci va être authentifié et chiffré. Donc, on respecte aussi la vie privée. On n'est pas contre la vie privée. Au contraire, on va respecter la vie privée et on a les moyens techniques, comme vous m'interrogiez, pour respecter cette vie privée.
Alors, l'analogie avec les sociétés de droits d'auteur est intéressante parce que c'est vrai que ça permet de comprendre quel pourrait être le mode de rémunération. Avec la CNIL, qui pourrait être cette plateforme qui sert justement de redistribution de ces droit, Isabelle Falque-Pierrotin, ça vous intéresse ? Vous en pensez quoi ?
Ah mais je n'y crois pas du tout.
Du point de vue de la faisabilité ?
Non, je n'y crois pas du tout, et je dirais même philosophiquement et économiquement, je pense que ça n'est pas une bonne réponse. Économiquement, ça voudrait dire qu'on arrive à créer une sorte de marché secondaire de la donnée piloté par l'individu. Toute la question va être de savoir... De quoi parle-t-on ? On parle de mails. Alors, je suis propriétaire des mails que j'émets et pas de ceux que je reçois. Voyez, les données, Lionel l'a justement dit, ils ont aussi une dimension collective. Mes données génétiques, est-ce que je peux les commercialiser ? Alors qu'en réalité, ça dit beaucoup de choses sur des tas d'autres individus que moi-même. Ce micro-paiement... L'individu ne va pas, enfin, toutes les études qui ont été faites sur le sujet montrent que, sur un plan strictement économique, en réalité, les individus gagneraient extrêmement peu sur l'année. Donc, moi, je ne crois pas du tout...
Mais extrêmement peu, c'est toujours qu'extrêmement rien. Ça peut aussi faire intéresser, c'est-à-dire sans forcément faire un effort supplémentaire, se dire qu'on toucherait ne serait-ce qu'un petit pécule annuel.
Mais toutes les études montrent que, en réalité, si vous créez une régulation de marché entre deux acteurs, dont l'un est extrêmement puissant, en l'occurrence les GAFA, et en face, vous avez la multitude des individus qui voudront monnayer leurs données, en réalité, le pouvoir sera de plus en plus transféré, en réalité, auprès des opérateurs économiques. Donc c'est une illusion de penser que les individus vont gagner de l'argent de cette manière-là. Et je laisse de côté le deuxième argument, qui est quand même un argument philosophique, c'est que les données, c'est pas simplement des petits pois. On est en train de commercialiser et de parler d'attributs de la personne humaine. Donc, si on fait ça, on est en rupture avec toute la démarche philosophique qui est non seulement française mais européenne, consolidée au niveau du règlement européen aujourd'hui, imitée par les pays francophones, les pays de l'Amérique du Sud. Enfin, pour changer d'approche en termes de régulation, il faut vraiment être sûr que ce qu'on va substituer à la situation actuelle est vraiment meilleur. Franchement, moi, je ne crois pas que ça soit meilleur.
Donc, non seulement vous dites « ce serait compliqué à mettre en place », ça ne rapporterait pas grand-chose à chacun, et surtout, sur le plan des principes, ça irait à l'encontre de la philosophie autour des données personnelles. Lionel Morel, vous qui, j'imagine, passez beaucoup de temps sur Internet, être régulièrement connecté, si vous pouviez vendre vos données fussent-elles sociales, quitte à, je ne sais pas, pourquoi pas vous organiser en coopérative avec d'autres pour recevoir une rémunération, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser sur le principe ?
Alors non, pas du tout, parce que en fait, si vous voulez rentrer dans cette logique-là de monétisation, ça a des sous-entendus très profonds. Ça veut dire en fait que ce que propose Génération Libre, c'est avant tout de créer un droit de propriété privée sur les données, donc de réduire justement les données à cette dimension hyper individuelle. Alors que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, c'est surtout la dimension collective moi qui m'intéresse. Et ensuite de ça, quand vous créez un droit de propriété privée, vous déléguez la régulation à un marché. Et c'est ça, en fait, le but final. C'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le marché qui régule la protection de nos vies privées. Et avec un sous-entendu libéral qui dit c'est le marché qui régulera plus efficacement les données personnelles qu'une approche en termes de droits fondamentaux comme le fait la CNIL, ou comme nous on essaie de le pousser, une approche en termes de décision collective. Parce que vous avez repris l'image des données citoyennes. Mais par définition, si je vends mes données, j'abdique tout pouvoir de décision citoyen. Je vais être dans une relation de vendeur à acheteur, et c'est pas du tout ça une relation citoyenne. Pour qu'il y ait une relation citoyenne dans l'usage des données, il faudrait qu'on ait des moyens collectifs de contrôle sur l'usage de nos données. Et actuellement, ces moyens, ils n'existent pas, en fait. On n'a pas en fait d'organisation de la société civile qui soit suffisamment structurée pour pouvoir peser. Et vous avez un sociologue qui travaille en France qui s'appelle Antonio Casilli qui dit
la vie privée, sur France Culture, il y a quelques jours de ça,
Culture la semaine dernière, la vie privée a cessé d'être un droit individuel, elle est devenue le résultat d'une négociation collective. Si on fait passer les données dans une régulation de type marché, on abdique toute volonté d'avoir cette négociation collective. Parce qu'on sera renvoyé à des négociations hyper individualisées dans un cadre complètement asymétrique qui empêcheront l'individu de pouvoir négocier. Il n'y aura pas de négociation possible avec un acteur comme Facebook.
Alors, réaction d'Isabelle Landreau et ensuite je repasserai la parole à Isabelle Falque-Pierrotin. Isabelle Landreau, vous qui défendez cette monétisation.
Oui, et alors évidemment, on est contre ce que vient de dire Lionel parce que c'est quand même nier le droit à accès à la propriété privée. Le droit à la propriété, c'est un droit fondamental, naturel, imprescriptible, qui est déjà dès 1789, qui est dans les déclarations de 1948. C'est un droit fondamental qui existe au niveau européen, à la Convention européenne des droits de l'homme.
Oui, donc, mais je peux être propriétaire de ma maison, par exemple, de ma voiture, mais les données, c'est quelque chose de différent, non ? Ça n'a pas la
oui,
même
mais,
nature.
Mais pourquoi exclure le citoyen de cette mine d'or qu'il lui-même génère ? Il est le premier générateur, hein, et il consent à générer ou pas. Nous, on dit qu'il faut rétablir un équilibre et qu'il ait la liberté de choix. La liberté d'exploiter ou de ne pas exploiter. Donc c'est ça qui est important. À l'heure actuelle, et on est tous d'accord là-dessus, il y a un véritable déséquilibre. Donc si on n'introduit pas le rempart de la propriété privée, eh bien on va aller voir des abus qu'on voit déjà à droite à gauche. Et de toute façon, le marché, comme Isabelle Falque-Pierrotin l'a dit, il existe. Le marché de la donnée, il existe. Donc en effet, il faut essayer de trouver un moyen pour protéger le citoyen, mais qu'il en ait un certain revenu dans un équilibre des pouvoirs.
Oui, mais ce que dit Lionel Morel, c'est que ce n'est pas forcément au marché qu'il faut donner le pouvoir de régulation. Il y a eu, par exemple, il y a quelques jours, alors je ne suis pas sûr que ce soit un grand spécialiste des questions liées aux données personnelles, mais Julien Drey, sur BFM Télé, qui propose que nous mettions, alors je le cite, en place une taxe sur les GAFA qui permettra de constituer une dotation universelle pour chacun d'entre nous de 50 000 euros à l'âge de 18 ans. Bon, alors je ne sais pas ce que vaut cette estimation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de se dire on va individualiser la gestion des données personnelles, Isabelle Landreau, de se dire bah, finalement, chaque citoyen internaute va recevoir une dotation qui sera financée par les grandes entreprises du web. Chacun touchera à peu près la même chose, mais au moins il y aura une autre façon de réguler ça et de rééquilibrer justement la relation qui ne l'est pas pour l'instant.
Oui, alors de toute façon, nous c'est une option et c'est une solution parmi d'autres. Vous avez cité M. Drian, mais il y a aussi M. Moscovici, Moscovici, il a aussi des solutions justement pour taxer les GAFA à différents niveaux.
Donc,
c'est tout à fait faisable, c'est bien sûr. C'est-à-dire qu'il y aura une reversion, une redistribution des richesses. Nous, on considère que la donnée personnelle est une richesse et que le citoyen ne doit pas simplement consentir par défaut dans un système de opt-out, mais doit être libre de ses choix d'exploiter et de ne pas exploiter. Et à l'heure actuelle, vous avez fait mention de la décision belge, il y a la décision de Berlin. On voit quand même qu'il y a un vrai problème dans ce déséquilibre de marché.
Isabelle Falque-Pierrotin.
Moi, je veux juste dire qu'aujourd'hui, on a un droit qui est, dans le fond, extraordinairement puissant, puisque même si vous n'êtes pas détenteur des données, propriétaire d'une base de données, vous gardez des droits dessus. Donc pour les individus, c'est un levier absolument extraordinaire de faire valoir leurs droits par rapport à ces grands acteurs internationaux. Le problème, c'est qu'ils ne font pas suffisamment valoir ces droits. Donc il y a effectivement un travail à mener pour que les droits d'accès, les droits de portabilité, le droit à l'oubli, qui sont des droits qui rééquilibrent justement le pouvoir entre l'individu et les sociétés, soient effectivement mobilisés.
Mais Isabelle Fakopirotin, si j'ai de tels droits, est-ce que ça ne signifie pas que je suis propriétaire de ces données ?
Mais justement, c'est ça le grand intérêt du droit actuel, c'est que vous n'avez pas besoin de démontrer quoi que ce soit, que vous soyez propriétaire ou pas, vous bénéficiez de ces droits dès lors que c'est une donnée personnelle qui vous concerne. Et ça, je crois que c'est une supériorité et une avance de ce droit de la propriété des données qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Là où Lionel a raison, c'est que la dimension collective de ce droit de la protection des données personnelles n'est pas suffisante. Mais moi, je crois que le règlement européen, bien sûr qu'il est centré beaucoup sur l'individu, mais il contient quand même en germe des éléments justement de gestion plus collective à travers l'action collective et l'action, je dirais, que les associations peuvent mobiliser. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant parce que on a beaucoup parlé du fait que l'Internet, c'était le pouvoir de la foule. Et effectivement, pour les GAFA, la donnée personnelle, elle est intéressante si, en fait, elle est agrégée avec plein d'autres. Avec le recours collectif, en fait, on reprend la même idée, on l'applique aux droits des personnes et on dit « vous allez pouvoir être un certain nombre à faire valoir ensemble vos droits et avoir, ce qui est nouveau, un droit à réparation ». Donc le droit à la réparation, qui est contenu dans ce nouveau RGPD, c'est aussi un moyen d'avoir un retour financier qui n'existait pas auparavant.
Et Isabelle Fakopirotin, encore un mot sur l'idée d'une redistribution. C'est-à-dire une redistribution qui ne serait pas gérée par un marché au niveau individuel, mais qui pourrait être faite de manière plus collective. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle vous pourriez être sensible du fait du déséquilibre que vous avez tous constaté au début de l'émission ?
Mais je vous dis justement que cette redistribution intermédiée par des acteurs type des associations de droit au recours, c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir. Le premier, c'était Schrems. Et qu'est-ce qu'il vient de faire Max Schrems, qui a quand même fait plier Facebook ? Il vient de créer une association pour justement faciliter ces recours collectifs. Donc je crois qu'on est exactement dans ce changement de paradigme, où c'est plus simplement un individu face à des grands acteurs, c'est un individu informé, doté de nouveaux droits qu'il peut plus facilement faire valoir et individu qui peut également se fédérer.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut rentrer dans la protection sociale des données personnelles dont vous parlez, Lionel Morel ?
Oui, on a fait une tribune dans Libération avec une personne qui s'appelle Laura Oufrère pour essayer de pousser cette idée de protection sociale. C'est là où on va pouvoir se rejoindre. C'est l'idée que si on veut s'organiser collectivement pour défendre nos données, il y a déjà des modèles qui existent dans le droit, notamment dans le droit social. C'est-à-dire que on a parlé d'une relation asymétrique. C'est traditionnellement la situation dans laquelle les individus sont quand ils sont au travail. Et en fait, le droit a développé des mécanismes de négociation collective. On connaît par exemple les conventions collectif dans le domaine du travail, et on peut aller négocier nos droits vis-à-vis d'une personne qui vous met au travail. Facebook, c'est ce qu'il fait en fait. Ils nous mettent au travail en fait sur les plateformes, et on devrait avoir un droit collectif à aller négocier les conditions d'utilisation comme on le ferait d'une convention collective de travail.
Mais qu'est-ce qu'il y aurait à négocier ? Vous négocieriez à quoi ?
C'est exactement ce qui s'est passé avec la décision belge là que vous citiez. Par exemple, ne pas être espionné par le bouton like de Facebook. Ça, c'est une chose qu'il faut négocier. Pas en termes de rémunération, en faisant valoir ce qu'on appelle des droits fondamentaux, mais en les faisant valoir collectivement. Pas uniquement dans des additions de défense individuelle. Parce que ça nous renvoie en fait à la faiblesse de l'individu isolé. Et je voudrais juste terminer sur l'histoire de la fiscalité, parce que vous avez parlé. Il faut faire très attention à pas mélanger la monétisation des données que propose Génération Libre, avec la question de la fiscalité, qui est une question complètement différente. Les GAFA doivent être soumis à une fiscalité, et c'est la responsabilité des États de retrouver la capacité à imposer les GAFA. Mais pourquoi, en fait, faire ça ? Parce qu'en fait, ça nous redonne un pouvoir collectif sur les GAFA. C'est complètement
différent.
Quand j'évoquais
la proposition de Julien Drey, hein, c'était pas, je crois, en termes de fiscalité, c'était vraiment une façon de rémunérer, justement, la production de données personnelles.
Mais c'est comme ça qu'il le présente. Ça pollue le débat, si vous voulez, cette question du retour financier à l'individu, parce que la vraie question, c'est de retrouver un pouvoir de taxer ces acteurs-là pour financer tout simplement nos services publics, la protection sociale classique, et réussir à ce que les États gardent une puissance face à ces acteurs privés. Parce qu'un des paramètres du problème, c'est que les États ont énormément décru en puissance par rapport à ces acteurs privés, et c'est ça aussi qui crée l'asymétrie.
Mais en tout cas, même en cas de défense des intérêts de manière collective, Lionel Morel, dans la négociation, n'entrerait pas en compte pour vous la question d'une éventuelle rémunération.
Non, je pense que c'est complètement poser le problème à l'envers de le voir avec un retour financier. Parce qu'en fait, le retour financier va présupposer une propriété. Et le propre d'une propriété, c'est qu'on peut la céder. Et une fois que vous avez cédé votre propriété, ben c'est plié. Vous avez cédé la propriété à Facebook, à Google, etc. Et une fois que vous aurez eu votre petit pécule de 0,15 centimes, vous perdrez le contrôle sur ce que vous avez cédé.
Alors ça, c'est très important, Isabelle Langreau, parce que c'est quelque chose que j'aimerais que vous m'expliquiez dans votre projet de monétisation des données personnelles. Je vends mes données. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que je les ai vendues, je n'ai plus aucun droit sur celles-ci? Et imaginons que je veuille les racheter, les récupérer, est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que vous avez pensé cette question?
Alors, donc, on considère que la donnée est un bien corporel, donc un bien meuble incorporel, pardon, immatériel, et qui pourra faire l'objet, oui, de vente, de cession ou de transmission. Évidemment, on a un droit sur ces données directes, et lorsqu'on les données seront vendues, ce sont des données qui sont pour une exploitation catégorielle à un moment donné, donc dans un temps réduit pour une finalité précise. Donc, lorsqu'elles sont vendues, eh bien, on aura un revenu en retour sur ces données-là. Donc, c'est très clair, on a un revenu par un nanopaiement aux citoyens directement.
Mais ça veut dire que je ne suis pas dépossédé à vie de ces données ?
Je ne suis pas dépossédée à vie. Pourquoi ? Parce que on maintient l'arsenal juridique existant. Hein, comme l'a dit Madame Falpierrotin, on va maintenir le droit au déréférencement, le droit à la portabilité des données, et ainsi de suite. Il faut bien définir que la donnée est un bien meuble incorporel, comme on a d'autres biens meubles incorporels. Imaginez par exemple la réputation. Vous êtes, c'est la réputation, c'est bien totalement immatériel, c'est bien un attribut de la personnalité. Et qui émane de vous. Et on a un prix de cette réputation devant les tribunaux. Eh bien, vous perdez pas votre notion de réputation parce que vous l'avez fait valoir devant un tribunal. Donc, pour la donnée, il faut imaginer un système équivalent où le propriétaire, c'est-à-dire le générateur, le premier générateur de la donnée, le citoyen, a le droit d'abusus, usus et fructus des revenus de sa propriété.
Il m'a semblé vous entendre dire, Lionel Morel, que ça n'était pas possible.
Ben non, c'est parce qu'en fait, c'est deux paradigmes juridiques qui ne sont pas compatibles entre eux. Le droit des données personnelles tel qu'il est conçu actuellement, c'est justement un droit où on ne se dépossède jamais de ses droits de contrôle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné une autorisation d'utilisation, on peut quand même continuer à exercer les droits qui sont liés à la personne humaine. Et ce que vous faisiez tout à l'heure, une analogie que je trouve assez dangereuse avec le droit d'auteur. Parce que déjà, on n'est pas auteur de ces données personnelles. Je suis pas auteur de mon nom de famille, je suis pas auteur de mon adresse, je suis pas auteur de mon numéro de téléphone.
On peut considérer qu'on est auteur de certaines de nos données.
Oui, si je prends des
photos. Vous êtes auteur par l'activité que vous générez sur votre vie numérique.
Non,
vous avez
quand même. Je suis pas auteur de mon nom de famille. C'est la société qui m'a donné mon nom de famille. C'est pas moi qui l'ai.
Mais c'est pas que la société. Vous êtes quand même un individu libre et conscient de vos choix.
Oui, je suis libre et conscient.
Donc votre activité numérique, c'est bien vous-même qui l'a générée. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous la poser.
Non, moi, j'accepte pas.
Vous n'avez pas, que... vous
non,
avez
non,
pas
non,
le
non,
choix la... de, d'aller non. sur Facebook ou de ne pas aller sur
non,
Facebook.
La vie privée
vous avez bien le choix
alors,
d'aller sur Facebook
non.
ou de ne pas être sur Facebook ou d'être, de faire non. un blog ou de ne pas faire un blog. Vous êtes quand même un être conscient, libre.
Alors,
donc,
laissons poursuivre.
Vous êtes le premier générateur de données. Ça, c'est la base.
Je termine sur l'histoire du droit d'auteur. Quand un auteur cède ses droits à un éditeur, il cède sa propriété sur son œuvre. Et je peux vous dire que quand il accepte de signer le contrat, si le contrat prévoit que l'œuvre soit exploité 70 ans après sa mort, il ne pourra jamais récupérer ses droits vis-à-vis de l'éditeur. Donc en fait, ce qui est proposé là, c'est ce qu'on appelle une aliénation. Parce que la vente, c'est une aliénation du bien. Et donc, si on fait ça sur les données personnelles, on va provoquer en fait un transfert massif des droits d'usage vers les plateformes sans possibilité de réexercer un contrôle en retour.
Isabelle Falque-Pierrotin, vous avez été interrogée il y a quelques jours de cela. Alors, je ne me souviens plus de quel titre de presse c'était. Je suis désolé, on le retrouvera, on le mettra en lien tiens, sur notre site internet sur ce sujet. Et vous avez répondu, notre corps numérique est constitué de données et nous ne pouvons pas vendre des parties de notre corps. Vous en faites une question de dignité humaine. J'aimerais que vous m'expliquiez, c'est-à-dire en quoi l'analogie peut être pertinente entre ce que serait notre corps physique et notre corps numérique. Parce que quand on vend, imaginons que je vende un de mes reins effectivement, derrière, je ne peux plus le récupérer. Par contre, mes données, c'est différent.
Alors, ce n'est pas la raison principale qui fait que nous nous opposons à la proposition de Génération Libre. Encore une fois, la raison principale, c'est que je pense que le raisonnement économique qui est proposé par Génération Libre, dans le fond, je crois qu'il ne tient pas la route. En revanche, il y a tout un débat philosophique, effectivement, là-dessus, sur la notion de données. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit que les données font écho au corps numérique ? C'est parce que, dans le fond, on a de plus en plus une vie numérique qui se traduit par des données personnelles qui sont, je dirais, accumulées via tous les éléments de notre personnalité. Et dans le fond, notre identité et notre corps numérique, c'est de plus en plus ces données personnelles. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle qu'il est assez naturel de faire entre, finalement, toute cette dimension de l'individu qui existe en ligne et le corps physique qui, lui, est indisponible à la vente. Et comme il a été dit que la protection des données personnelles, c'est un droit fondamental, qu'est-ce que ça veut dire un droit fondamental ? Ça veut dire que c'est pas lié à une dimension particulière de l'individu en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant que habitant de tel endroit. C'est en fait en tant que personne humaine et cela fait écho à finalement la dimension collective de l'individu derrière l'individu lui-même. Voyez ? Donc quand on dit Il ne faut pas commercialiser les données personnelles sur Internet comme on ne commercialise pas le corps humain, c'est parce que dans le fond, on est face à ce même principe d'indisponibilité du corps, que ce soit le corps physique ou le corps virtuel, puisqu'on existe de plus en plus à travers notre corps virtuel.
Mais c'est donc complètement c'est ça, l'idée. Faux, parce que le corps physique, il est indisponible, mais le corps numérique, il est disponible. Vous le connaissez bien, toutes les business qui ont été faits sur les données personnelles, donc les données numériques, issues de votre corps, il y a des business entiers qui sont faits là-dessus, donc c'est quand même disponible au commerce. Mais comment nier l'indisponibilité ? C'est complètement, totalement faux, c'est à côté de la plaque. Les données numériques, elles sont un business énorme, c'est 7 à 8% du PIB en France, c'est des milliards, vous le savez, de Facebook et ainsi de suite. Donc, nous, on dit rétablissons un équilibre et le droit de propriété est le premier rempart pour protéger, là on est tous d'accord, le citoyen dans sa vie privée et aussi bien dans son corps que dans sa vie numérique. Alors, il est doté de plein d'outils techniques par rapport à sa vie numérique et on va lui dire, ah ben non, finalement, tu comprends, t'es protégé, c'est l'indisponibilité de ta vie numérique, donc on donne tes données à droite, à gauche, et puis on fait du business sur toi. Et après, on va dire, mais oui, tu as le droit de rectifier, tu as le droit à différencier, tu as le droit à la portabilité. Mais dans la pratique, c'est quoi la pratique ? La portabilité, normalement, c'est 3 semaines. Les banques, par exemple, mettent 3 mois. C'est encore très difficile dans la pratique. Le droit au déférencement, la France a été le premier pays à demander à Google d'enlever des liens. Hein, on était à plus de 50%. Et le résultat, c'est qu'il n'y a que 50% des demandes qui sont traitées. Et il y a des gens, et on a encore vu, il y a un professeur, par exemple, qui dit « je ne veux plus de pages sur Wikipédia ». Un professeur connu dit « je ne veux plus de pages sur Wikipédia ». Et j'ai pourtant demandé à ce que ma page soit retirée, qu'on corrige et ainsi de suite. Eh bien,
mais
ça n'est
quoi,
pas fait.
En quoi le fait de vendre ces données-là, ça permettra justement d'éviter ce genre
pouvoir,
de dérive ?
Ça donne un pouvoir, ça donne un pouvoir de négociation. Et il faut rétablir la liberté de choix et le pouvoir de négociation. Que ça soit individuel ou collectif, je suis tout à fait d'accord avec les actions de groupes qui ont été introduits dans l'RGPD, et ça c'est une très bonne chose, et maintenant elles sont réparatrices. En effet, on va pouvoir demander des dommages et intérêts suite à un préjudice sur nos données personnelles, et on va avoir énormément de problèmes là-dessus.
Le RGPD, je ne sais plus si on l'a dit précisément, Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles.
Lionel Morel. Juste pour, on a pris une analogie du corps, je voudrais en prendre une autre pour montrer un peu le paradoxe où produirait cette question de la propriété. Il y a une autre chose qu'on n'a pas le droit de vendre dans une démocratie, c'est son droit de vote. Et pourquoi on n'a pas le droit de vendre ? Parce que c'est fondamental qu'il n'y ait pas un marché du droit de vote. On imagine bien à quel point ce serait dangereux d'en créer un. Et si vous voulez, pour les données personnelles, c'est exactement la même chose. Parce que ce qui est proposé ici, c'est de concevoir tous les droits et les libertés sous la forme d'une propriété marchandisable. Et en fait, on voit très bien ce que ça produirait. Imaginez un instant si le droit de vote faisait l'objet d'échanges et si certains qui avaient plus de moyens pouvaient acheter les votes de leurs concitoyens. Et là, on va retomber sur la question des données citoyennes. C'est-à-dire que c'est évidemment qu'on ne met pas aux enchères nos votes. On ne doit pas mettre en enchères nos données personnelles pour la même raison, parce que si on le fait, on perd justement notre droit de contrôle individuel, mais aussi collectif.
Il y a aussi une proposition qui est faite par Génération Libre, qui serait de dire, finalement, si vous ne souhaitez pas aussi entrer dans ce système-là, et si vous n'avez pas envie que vos données personnelles puissent être utilisées, vous pourriez, moyennant un tarif à déterminer, être assuré de la confidentialité de votre vie numérique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Lionel Morel ?
Qu'on doive repayer pour certains services numériques, c'est quelque chose de sain. Il faut peut-être se réhabituer à payer pour certains...
Et donc de dire, je vais payer pour pouvoir avoir une confidentialité totale assurée.
Non, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer pour certains services ? C'est pour éviter en fait de tomber dans un modèle publicitaire. Parce que toute l'exploitation des données personnelles repose en fait sur un problème de publicité. Donc ça oui, payer pour un service pour être sûr qu'il n'y ait pas de publicité et donc pas d'exploitation des données personnelles, ça d'accord. Mais attention, si jamais on tombe là-dedans, dans l'idée que... En fait, on tombe dans l'idée qu'en fait, seuls ceux qui sont capables de payer pourront protéger leur vie privée. Et donc, ça transforme à nouveau la vie privée en une marchandise qui sera accessible qu'à ceux qui ont les moyens de payer.
Isabelle Falque-Pierre.
Je crois qu'en tout cas, la proposition de Génération Libre est exactement ce que souhaitent les GAFA. D'ailleurs, ils l'ont déjà écrit dans leurs conditions générales, où ils écrivent de façon totalement erronée que l'individu reste propriétaire de ses données. Vous voyez, ils écrivent dans leurs conditions générales, vous restez propriétaire de vos données.
Ce que souhaitent les GAFA, si c'était mis en œuvre, ça leur coûterait quand même un petit peu d'argent.
Mais ça leur coûterait rien, très peu de choses par rapport à la latitude très 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 grande qu'ils auraient de ce fait-là aujourd'hui. On a vis-à-vis de ces GAFA un levier qui consiste à leur dire le droit de la protection des données vous est applicable et vous devez répondre aux droits des personnes d'accès, droit à l'oubli, etc. Et je dirais toute la négociation avec les GAFA consiste à les faire rentrer dans ce raisonnement grâce à ce levier. Et par exemple, vous parliez de Facebook tout à l'heure. En fait, ce que nous essayons en tant qu'autorité de protection des données d'obtenir de Facebook, c'est le fait que la combinaison de données à laquelle il se livre, enfin que ce soit Facebook, Google ou les autres, soit encadré par l'individu lui-même, qu'il consente ou pas à certains types de combinaisons. Si vous leur transférez la propriété des données, c'en est fini de cette négociation. Ils achèteront à vil prix la protection des données personnelles des individus et en réalité, il n'y aura pas un retour sur investissement pour l'individu, il y aura une grande braderie des données personnelles au profit des GAFA. Donc je pense que ça n'est pas une bonne idée et qu'au contraire, il faut rester sur notre approche actuelle européenne, il faut renforcer l'effectivité des droits, peut-être par des mécanismes collectifs qui n'existent pas suffisamment aujourd'hui et à ce moment-là, on devient très crédible par rapport à ces acteurs internationaux.
Est-ce que ça veut dire, Isabelle Landreau, que vous faites davantage confiance à l'individu qu'aux institutions qui, justement, essaient de réguler cette question des données personnelles ?
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Et Madame Pierrotin l'a bien dit.
Ce qui, de la part d'un think tank libéral, n'est pas surprenant,
exactement.
C'est assez logique.
En effet, pourquoi ? Parce que Madame Falque-Pierrotin l'a bien dit. La première action qui a été faite, ce n'est pas par l'autorité des données de l'Allemagne ou de l'Autriche. C'est par un individu, Marc Schrenk, qui a épuisé toutes les voies de recours à titre individuel pour aller contre Google. Donc, si vous voulez, où sont les actions des institutions ? Alors, il y a...
Il y a quand même ce règlement quand même qui va entrer en vigueur.
Ça va dans le bon sens. Et nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut faire du consentement la cheville ouvrière de la protection des citoyens dans sa vie numérique. Ça, c'est tout à fait juste. Mais vous parlez de grande braderie. Elle est là, la grande braderie. On brade nos données personnelles pour des acteurs qui font un chiffre d'affaires colossal, et vous le savez bien, sans qu'il y ait un minimum de retour, puisque c'est une gratuité, et cette gratuité, elle est illusoire.
Une toute dernière question, Isabelle Falque-Pierrotin. A trop véhiculé le discours sur la nécessité de protéger nos données personnelles. Est-ce qu'on ne risque pas aussi de fragiliser justement le fait que ce sont des données qui peuvent être extrêmement utiles ? Je pense alors, à la fois il y a un risque, mais par exemple sur la connaissance en matière de médecine, c'est important aussi que ces données-là, elles puissent circuler, encadrer certes, mais qu'elles puissent circuler pour faire avancer par exemple
bien sûr,
la connaissance.
Mais c'est d'ailleurs exactement le choix qu'a fait le règlement européen qui prévoit de plus en plus de cas où au nom de l'intérêt public, et sans avoir le consentement, en réalité, la donnée personnelle peut être traitée. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus voir du consentement, faire du consentement l'alpha et l'oméga de toute la régulation des données personnelles. Il y a bien d'autres possibilités pour permettre le traitement des données personnelles. Je reviendrai sur un dernier point qui consiste, qui est sur l'apparente contradiction entre l'indisponibilité des données personnelles et la commercialisation de celles-ci. Il n'y a pas de contradiction. En fait, le traitement des données, c'est le traitement des données qui procure de la valeur. C'est pas la donnée elle-même. Oui. La donnée personnelle toute seule, elle ne vaut rien.
Oui, mais la donnée
c'est
toute seule,
c'est la donnée agrégée.
Oui, mais c'est la mine d'or. Vous ne faites pas de chiffre d'affaires sans la mine d'or, sans le grain à moudre.
Ah bah quelle belle conclusion Isabelle Landreau, merci beaucoup, vous êtes très forte. Merci à vous, merci à Lionel Morel ainsi qu'à Isabelle Falque-Pierrotin pour cette discussion que vous pouvez réécouter sur notre site internet. Il faut se connecter, c'est franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Marine Beccarelli, Antoine Dulcer et Prune Saez. Émission réalisée par Lise Combe avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Dans un peu plus de 3 minutes, vous retrouverez la dispute avec Arnaud Laporte.
On ne peut rien vous cacher, Hervé Gardette. On va parler de théâtre ce soir.
Vous êtes
soir.
Là tous les soirs, donc bon.
C'est vrai. Demain, dans du Grain à Moudre, quelle sera la question, Hervé ?
Italie, le fond de l'air est brun. Avec un point d'interrogation, on va se demander s'il y a un retour du fascisme, voire d'un fascisme light en Italie, avec les législatives et la campagne en cours.
Et vous définirez fascisme light, bien sûr, oui. Entre autres questions.